Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. À quand un internet représentatif du monde ? Les technologies actuelles ne reflètent pas la diversité de nos sociétés. Internet est en fait centralisé, construit à l'image du monde occidental. Les utilisateurs actuels du réseau façonnent l'internet de demain qui n'est donc pas si inclusif que cela. Notre invité, que vous entendrez tout à l'heure, estime qu'un autre monde numérique est possible, à condition de s'en donner les moyens. Mais tout de suite, je vous emmène au Palais de Justice de Paris, sur l'île de la Cité. Ces derniers mois, dans l'atelier des médias, on a plusieurs fois eu l'occasion de parler d'actes violents des forces de l'ordre contre les journalistes dans les manifestations de Gilets jaunes. On a aussi entendu des journalistes français convoqués par les services de renseignement pour leur travail d'enquête sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. C'est dans ce contexte que l'Association de la presse judiciaire et le Syndicat national des journalistes viennent de publier un guide de défense du journaliste. Ils organisaient mardi 25 juin une conférence de presse pour le présenter.
Bon ben bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués. Vous êtes ici dans les locaux de l'Association de la presse judiciaire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fête cette année ses 132 ans. C'est la plus vieille association de journalistes professionnels en France.
La personne que vous entendez, c'est Jean-Philippe Deniaud, journaliste, chef du service Enquête Justice à France Inter. Il est aussi président de l'Association de la presse judiciaire. Au sortir de cette conférence de presse sur les marches du Palais de Justice de Paris, je lui ai tendu mon micro. Ma première question, savoir quelle était l'urgence de sortir un tel guide de défense du journaliste en France en 2019.
Parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiel désormais que les journalistes soient informés avant même d'être inquiétés, informés de leurs droits en cas de convocation pour une audition libre, pour une garde à vue, en cas de perquisition sur leur lieu de travail ou à leur domicile ou dans leur véhicule. Dans tous les cas où la police ou la justice commence à s'intéresser au travail du journaliste, il est important d'avoir juste les armes pour savoir se défendre.
Si vous faites cela, c'est parce qu'il y a eu ces derniers mois en France justement des convocations de journalistes par la police, par la DGSI, donc les renseignements et d'autres. Donc ça vous paraissait urgent de le faire là, maintenant, tout de suite?
Oui, j'avoue que je me suis moi-même posé la question. Et si j'étais convoqué, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'appelle mon avocat? Est-ce que j'appelle un syndicat de journalistes? Est-ce que je me rends à cette convocation ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que j'y vais avec mon portable ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que j'y vais avec mon avocat? Ou est-ce que l'avocat ne peut pas venir? Voilà, c'est toute une somme. Est-ce que des policiers qui viennent perquisitionner chez moi peuvent perquisitionner? Est-ce que dans le cadre de la perquisition, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent? Ou est-ce que j'ai le droit de choisir avec eux ce qu'ils peuvent perquisitionner? Est-ce que s'ils me saisissent mon téléphone, ils ont le droit de l'exploiter? Ou est-ce qu'il doit être mis sous scellé? Je donne les réponses dans les questions. Voilà, ce sont des questions toutes simples. Alors, il y a deux guides. Un premier, version courte, qui répond très vite à toutes les questions, qui peut être consultable tout de suite par n'importe qui, parce que ça peut vous arriver du jour au lendemain d'être convoqué. Et puis, il y a une version longue sur Internet, sur nos sites, qui permet d'aller beaucoup plus loin avec des réponses juridiques.
Ce que ça signale aussi, c'est que les journalistes sont au final peu au fait de leurs droits et de la façon dont ils doivent réagir et peuvent réagir légalement.
Oui, et ça, je dirais, ça me désole toujours quand je me rends dans les écoles de journalistes, parce que je trouve que le droit de la presse est très très peu enseigné, en tout cas pas assez. Il faut que les journalistes qui sortent des écoles de journalisme, sortent un peu du cadre, mais qui sortent des écoles de journalisme, soient informés de leurs droits. C'est important de partir dans la vie professionnelle avec des armes, ou en tout cas avec le manuel pour utiliser des armes qu'on serait susceptible d'utiliser très vite. Et tout au long de notre carrière, en fait, jusqu'ici, on s'en souciait peu. Là, depuis quelques mois, il y a des convocations qui sont inhabituelles, des journalistes que l'on convoque et à qui l'on dit « Oh ben finalement je vous interroge en qualité de simple citoyen, pas de journaliste ». Non, il y a des journalistes que l'on convoque uniquement parce qu'ils ont fait leur métier et qu'ils ont été témoins d'un petit délit commis, comme par exemple le décrochage de portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie. Ils sont convoqués comme s'ils étaient des complices. Eh bien non, c'est pas possible.
Est-ce que ce guide peut aussi s'adresser aux journalistes étrangers qui exercent en France ?
Oui, aux journalistes étrangers qui exercent en France. Je pense également à deux autres populations, le journaliste indépendant, Ou qu'il soit en France, qui est souvent beaucoup moins épaulé par la structure, évidemment, puisqu'il n'a pas une rédaction autour de lui, il n'a pas forcément un réseau d'avocats qu'il va pouvoir tout de suite contacter pour le défendre. Et puis je pense aussi aux journalistes qui exercent ailleurs qu'à Paris, qui sont des journalistes, comme on l'a vu dans cette histoire de journalistes convoqués pour un décrochage de portrait d'Emmanuel Macron, qui sont dans une petite commune près du Mans, et qui eux aussi sont un petit peu isolés par rapport à la protection globale qu'on peut avoir quand on est né journaliste dans une rédaction, et qui plus est à Paris.
Ce guide, il est daté, édition juin 2019. L'idée, c'est qu'il soit évolutif.
Oui, parce que déjà la loi évolue, parce que je pense que dans les semaines à venir, on risque d'avoir d'autres types de convocations que celles qu'on a connues ces derniers mois à la DGSI ou ailleurs, et qu'il y aura peut-être de nouvelles questions auxquelles il faudra répondre. Et bon, le droit peut évoluer aussi, mais enfin bon, le droit est assez stable, assez protecteur, d'autant qu'il est couvert par des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui quand même confirme l'ensemble des droits qui sont contenus dans la loi de 1880 et sa jurisprudence. Donc oui, nous remettrons régulièrement à jour quand il le faudra.
Et pour réaliser ce guide, vous vous êtes associé avec un cabinet d'avocats, justement.
Oui, on voulait en fait poser les bonnes questions, c'est-à-dire les questions que se pose un journaliste, les plus simples ou un petit peu plus complexe, et puis on voulait surtout avoir les bonnes réponses avec un cabinet d'avocats spécialisé qui connaît parfaitement bien le droit de la presse, qui intervient en Cour de cassation et au Conseil d'État. Donc des gens complètement armés, ils se sont mis à trois au cabinet de Patrice Spinozzi pour vraiment faire quelque chose à la fois rigoureux et didactique aussi.
Et on le trouve où alors ce guide ?
Alors vous le trouvez tout simplement sur le site de l'association de la presse judiciaire, pressejudiciaire.fr, sur le site du syndicat national des journalistes, SNJ.fr, qui est le syndicat avec lequel nous avons lancé cette initiative. Mais bien entendu, on n'exclut absolument pas les autres syndicats. D'ailleurs, sur ces deux sites, vous trouverez une version longue du guide, complète, et avec toutes les associations de journalistes et tous les syndicats qui souhaitent soutenir la démarche.
Merci Jean-Philippe Degnaud.
Merci beaucoup.
C'était le journaliste Jean-Philippe Degnaud, président de l'Association de la presse judiciaire. Et preuve que les journalistes sont sous le radar des politiques actuellement, le secrétaire d'État français au numérique, Cédric O, a plaidé cette semaine dans une interview à l'agence Reuters pour la création d'un conseil de l'ordre des journalistes. Faute de quoi, je cite, « l'État s'en chargera ». Il assure que c'est pour lutter contre les fake news, mais on peut lui rappeler que la profession de journaliste en France n'est pas réglementée et que si le gouvernement se saisissait de ce dossier, cela risquerait de contrevenir à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Autre information en bref, avec Facebook qui va collaborer avec les autorités françaises pour lutter contre les publications à caractère homophobe, raciste ou antisémite. Très concrètement, le réseau social fournira l'adresse IP des auteurs de propos haineux à la justice lorsqu'elle en fera la demande. On va maintenant parler du futur d'Internet. Cette semaine se tenait à Paris la conférence USI, un événement annuel dans lequel interviennent des grands penseurs, des innovateurs, des créateurs, bref, ceux qui nous empêchent de tourner en rond. L'un des invités a attiré mon attention. Il s'appelle Ramesh Srinivasan et se définit comme anthropologue des technologies.
Je m'appelle Ramesh Srinivasan, je suis professeur à UCLA et je suis à moitié ingénieur, mais je suis aussi chercheur en sciences sociales comme un anthropologue des technologies.
Alors, dans vos recherches, vous avez trouvé que vous rappelez en fait qu'Internet promettait aux utilisateurs de s'affranchir des frontières et de communiquer avec l'autre bout du monde, mais qu'en fait Internet et l'économie numérique ne représentent pas un grand village global puisque 75% du trafic Internet mondial s'opère via trois géants du web, dont Facebook et Google.
Tout à fait, vous pouvez dire global si les gens utilisent vos outils, mais vous n'êtes réellement global que quand l'ensemble des communautés et des gens à travers le monde ont réellement le pouvoir et leur droit de regard sur la façon dont ils communiquent et dont ils échangent des informations et même comme ils les représentent. Donc, vous savez, d'une certaine façon, l'expression « village global » est un peu comme une marque. Et vous savez, c'est bien sûr logique pour des entreprises comme Google, Facebook, Amazon d'étendre leurs produits et services autant que faire se peut, car ils s'appuient sur des économies d'échelle. Plus les gens utilisent vos outils, plus vous récoltez de données, plus vous contrôlez l'attention des gens, plus vous pouvez monétiser cela pour votre propre valorisation. Pas seulement par la publicité, mais quand vous contrôlez les données personnelles d'utilisateurs à travers le monde, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez vous en servir pour peser sur n'importe quelle industrie. Donc le vrai problème ici, c'est que nous avons, je ne sais pas, 4 à 6 milliards de personnes à travers le monde qui utilisent Internet de différentes façons. La plupart via un téléphone mobile. Mais il y a moins d'1% de ces gens qui influent sur la façon dont ces technologies sont conçues et dessinent le monde actuel.
Donc c'est ça, en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'Internet est centralisé. Il s'appuie sur les données de 4 milliards de personnes ayant accès à Internet, et notamment de 1,8 milliard d'utilisateurs de Google et de Facebook. Donc c'est un reflet des préférences et manières de penser occidentales.
C'est cela. Prenez par exemple les pays africains ou plus globalement les pays peuplés majoritairement par des Noirs. Il y a des exemples de la reconnaissance faciale de Google basée sur l'intelligence artificielle qui ne peut faire la différence entre les gorilles, les Noirs ou Michelle Obama, Serena Williams ou Oprah Winfrey, très célèbres aux États-Unis. Elles sont perçues comme étant des hommes par des systèmes de reconnaissance faciale. Encore une fois, ce n'est pas parce que les gens derrière ces technologies sont mauvais. Nous, les ingénieurs, on pense qu'on crée de la neutralité, qu'on crée un monde plus efficace. Mais qui nous sommes façonne la manière dont on construit les technologies. Le fait que je sois indo-américain crée forcément un biais. Cela conditionne la façon dont je vois le monde, dont je vais construire des technologies à l'image de qui je suis. Mais je vais également avoir des technologies d'apprentissage, car une intelligence artificielle collecte des données, apprend de nous et prend des décisions. Mais je vais entraîner ces technologies à partir de données que je pense bonnes. Résultat, on voit encore, encore et encore les valeurs et idées des puissants influencer et objectiver celles des 99% restants de la population mondiale.
Et en fait, c'est quelques centaines d'ingénieurs et codeurs basés dans la Silicon Valley qui ont un rôle social très important dans le monde. Comment faire pour essayer de lutter contre ça ?
C'est une très bonne question. Nous devons tout d'abord réfléchir très précisément au type de société dans laquelle nous voulons vivre. Et aussi nous dire que la promesse de la démocratie n'est pas de dire que la démocratie américaine peut s'appliquer au Congo. Il s'agit de comprendre comment des gens très différents à travers le monde choisissent de vivre leur vie. Donc, premièrement, il est essentiel de se poser la question des valeurs en lesquelles nous croyons en tant qu'êtres humains. Oui, les hommes ont des différends et se battent, mais ils aiment aussi la vie en communauté. Donc il faut d'abord décider de quel monde numérique nous voulons et nous assurer que les parties prenantes de ce monde influencent la façon dont les technologies sont développées. Deuxièmement, et c'est très important, les systèmes d'intelligence artificielle ou autres technologies, surtout lorsqu'ils viennent de l'Ouest et aussi de Chine, il est important de les auditer pour voir leurs effets, être sûr qu'ils sont transparents, qu'ils ne vont pas trop loin et soient complètement fous. Sinon, ce que l'on voit, c'est de la désinformation, des biais d'information, des informations qui sont en mesure d'influencer des élections et de confier le pouvoir à certaines personnes, comme on l'a vu au Brésil, Jair Bolsonaro, le président Trump aux États-Unis, ou encore dans une autre mesure avec le Brexit. La technologie parfois nous divise et ce n'est pas parce que les ingénieurs le veulent ou la technologie elle-même, ce sont les algorithmes qui apprennent que la meilleure solution pour garder l'attention des gens sur Facebook, WhatsApp, Instagram, c'est de leur montrer des images de plus en plus choquantes et radicales, par exemple des accidents de voiture ou des explosions. L'être humain aime voir ce genre de choses, même si ça ne veut pas dire que ce soit une bonne chose. Ça ne devrait pas être la seule chose que vous faites. Si vous ne mangez pas un steak tous les jours, vous ajoutez aussi des légumes.
We shouldn't just be eating steaks every day, right? We should also have some vegetables.
Oui, mais vous parlez d'audit, vous dites qu'il faudrait contrôler un petit peu et voir qu'elles ont un rôle, que ces entreprises ont un rôle social particulier. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est créer des Nations Unies en charge de l'Internet ou est-ce qu'il faut avoir un règlement coercitif vis-à-vis de ces grandes entreprises? Est-ce qu'il faut peut-être démembrer les GAFA Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Quelle est la solution ?
Il
y a plein de possibilités. Il ne s'agit pas seulement de dire que Google, Facebook ou Amazon sont les méchants. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent pour eux et ce sont des gens bien. Mais je pense qu'il est temps pour eux d'être socialement, politiquement et économiquement responsables. Ce sont des entreprises qui remodèlent notre société. La clé, c'est qu'il doit y avoir un niveau de responsabilité, de gestion et de surveillance. L'État peut être acteur de cela, mais beaucoup de décideurs politiques, comme vous avez pu le voir lors de l'audition de Mark Zuckerberg au Congrès, ne connaissent pas bien ces choses-là. Mais ce n'est qu'une étape. La seconde, c'est d'être sûr qu'il y ait une concurrence plus saine sur le marché. Et la troisième, c'est de s'assurer qu'une entreprise ne peut pas utiliser l'intégration horizontale, ce qui est une action visant à obtenir le monopole dans tous les domaines. Et nous voyons l'inquiétude monter avec Amazon en particulier.
In every area, and we see some concerns around that with Amazon in particular. But another issue also is to make sure that the society.
Un autre problème aussi, c'est de s'assurer que la société est protégée et indemnisée vis-à-vis des gros transferts d'argent et de pouvoir qui sont associés à l'automatisation de ces actions, ce qu'on appelle la gig economy. J'ai écrit sur ces sujets dans mon nouveau livre, Beyond the Valley, Au-delà de la vallée, qui sort en octobre. Je parle du revenu universel, de faire en sorte que les travailleurs aient des avantages, qu'ils puissent adhérer à un syndicat, même dans l'économie numérique, donner aux gens l'opportunité d'accéder aux micro-paiements via le Lightning Network et la technologie blockchain. Je pense que le plus important, c'est l'équité entre les gens qui travaillent dans ces entreprises. Donc, il y a plein de possibilités, je pourrais être agnostique concernant ces sujets, mais je pense que nous avons plus de solutions que de problèmes. C'est pourquoi je suis optimiste, en fait, et je pense qu'il faut informer les gens afin de prendre la bonne direction.
Deux questions pour terminer. La première, c'est en 2017, vous publiez un livre qui s'appelait After the Internet, après Internet. Et là, si je comprends bien maintenant vos dernières idées et vos propositions, c'est en fait de créer plusieurs internets ou intranets et vous donner l'exemple des apothèques au Mexique. Expliquez-nous ce que c'est précisément.
Oui, j'ai travaillé dans la région de Oaxaca au Mexique pendant plusieurs années et je me suis rendu compte que ceux qui avaient le moins accès aux technologies sont généralement ceux qui ont des idées innovantes. Faire plus avec moins est ingénieux et on voit ça partout dans le monde. Les gens prennent des objets électroniques recyclés et construisent des imprimantes 3D. Vous voyez, ces gens prennent ces téléphones dont l'obsolescence est programmée et construisent d'autres objets. À Oaxaca, ils recherchent vraiment la connectivité avec leur téléphone et malheureusement, les compagnies de télécom n'ont pas suffisamment développé le réseau. Certaines petites collectivités ont donc expliqué qu'elles pouvaient créer ce réseau et choisir de devenir le leader sur le marché. Full stack, comme on dit, être les premiers en matière d'énergie, de connectivité, de programme. Internet était un système public créé pour la première fois aux États-Unis. Maintenant, ceux qui gagnent de l'argent grâce à Internet sont des entreprises privées qui emploient peu de monde, qui font des coupes budgétaires afin que cela coûte le moins possible. Il est donc temps à présent de se demander ce qu'est la démocratie, la diversité, dans quel monde désirons-nous vivre, et donc de quelle technologie voulons-nous.
Une dernière question pour terminer, celle de la place des médias d'information là-dedans. Quel rôle ont-ils à jouer dans l'Internet de demain ?
Les médias traditionnels sont menacés par les grosses plateformes en ligne, mais nous voyons aussi beaucoup de nouveaux médias puissants émerger sur la toile, comme ProPublica ou The Intercept. Mais vous, les journalistes, vous êtes extrêmement importants. Vous diffusez l'information afin que les gens sachent ce qui se passe dans le monde et vous pouvez faire en sorte que le futur numérique soit équilibré. Nous avons besoin d'équilibre dans le monde et cela passe par cette préoccupation d'équité économique, de diversité culturelle, ainsi que dans la démocratie. N'oublions pas que c'est le peuple qui doit avoir le pouvoir. C'est possible aujourd'hui dans le monde du numérique, mais tout est dans la façon que nous avons de transformer la technologie pour qu'elle nous serve au-delà de la Silicon Valley.
Merci beaucoup, Ramesh Srinivasan.
It's really a pleasure. Merci beaucoup.
C'était Rami Srinivasan, chercheur et professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui nous emmène au Sénégal, pays depuis lequel le Togolais Roger Maoulolo nous parle du groupe qui a composé Panenka. Panenka, c'est l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se déroule actuellement en Égypte. 4-4-2, c'est la tactique. 4-3-3,
another tactique. Le football et la musique ont toujours eu un lien fort. Les grandes compétitions ont chacune leur hymne. Celui de la Coupe d'Afrique des Nations cette année, c'est ça. Il est chanté par le groupe togolais Toufan. Master Just et Barabas, les deux membres du groupe, ont composé Panenka, un hymne dédié à tous les amoureux du ballon. Le titre fait référence à ce joueur tchèque, Anthony Panenka, qui a inventé ce geste de classe et de grâce renommé la Panenka en son honneur. Elle sert à tirer des pénaltys. Comme tous les joueurs doués techniquement qui arrivent à réussir ce geste, Toufan a démontré une fois de plus son talent. La chanson évoque l'unité africaine que la compétition doit servir à renforcer et elle invite tout le monde à rester en mode calme. Plusieurs fois primé pour ses compositions, Toufan est un groupe qui a toujours démontré de l'amour pour le football. Depuis leur création en 2005, au moins 5 de leurs chansons sont liées au ballon rond. D'ailleurs, c'est une chanson sur la CAN qui a révélé Toufan au grand public. Sobrement intitulée 2006, la chanson était en l'honneur des éperviers du Togo, qualifiée pour la CAN 2006. Tenez-vous bien, en Égypte, comme l'actuelle édition. Deux autres éditions de la CAN ont eu des clips dédiés par le groupe. En 2002, lors de la CAN Gabon-Guinée équatoriale, c'était Oyaye Yembelembele, Africa Oye, le titre de la chanson. Le groupe y évoque la joie et l'espoir que procure la passion du foot, ce qui éloigne de l'image de guerre et de famine que l'on voit souvent de l'Afrique. Puis ce fut Ola Ola Olé Lé 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 Ola Ola en 2015, réalisé avec d'autres artistes africains. Le texte insiste cette fois sur la passion des Africains pour le foot, le beau jeu et le comportement exemplaire à avoir sur le terrain, sans oublier les exultations du public. Tous ces sons portent le sceau reconnaissable de ce groupe qui fait la fierté des Togolais. Une musique rythmée avec des paroles en anglais, français et en mina, la langue véhiculaire parlée généralement à Lomé, la capitale togolaise. Le style argotique qu'ils utilisent n'est vraiment compréhensible que de certains initiés de Lomé, comme moi d'ailleurs. Alors même si le Togo ne joue pas la CAN cette année, on peut sans crainte dire que le pays sera quand même présent par le biais de Toufan. Bonne CAN 2019 à tous, dans une bonne ambiance musicale.
C'était Roger Maoulolo Lasmoté, que vous pouvez aussi lire sur son blog maoulolo.mondoblog.org. Et sachez que Mondoblog dispose d'un site dédié à la CAN, où une centaine de blogueurs racontent avec leurs mots la compétition depuis tout le continent. Rendez-vous sur cannes2019.mondoblog.org pour avoir un autre regard sur cet événement majeur du sport africain. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin, à la réalisation Ludivine Amado, au micro Steven Jambot. La semaine prochaine, nous vous proposerons une rediffusion de notre émission du 15 décembre 2018 sur la façon dont les civic tech africaines dynamisent la démocratie. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse atelier@rfi.fr et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.